Une semaine d'actualité. Éric Bataillon.
Bonjour, bienvenue dans une semaine d'actualité et merci de votre fidélité. Comme chaque samedi, nous allons revenir sur 7 jours d'information avec la rédaction. Un rendez-vous hebdomadaire que vous pouvez podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr. Notre invité cette semaine est écrivain, journaliste, ancien ambassadeur itinérant, prix Joseph Kessel, prix Albert Londres, prix de l'aventure. On lui doit également de nombreux romans et récits de voyage, dont La confession de Massoud sur la vie du commandant afghan tué en 2001, trois jours avant l'attentat de New York. Bonjour Olivier Weber.
Bonjour.
Vous publiez L'enchantement du monde chez Flammarion. Alors ce livre se passe dans le dernier quart du 15e siècle. En quelques mots, que raconte-t-il ?
Ça raconte l'histoire d'un peintre italien qui était très en vogue à Venise, qui s'appelait Bellini, et qui s'en va à la cour du sultan ottoman, Mehmet II, qui a pris quelques années plus tôt Constantinople, donc comme la ville s'appelait auparavant, aux chrétiens, et qui lui dit « Tu vas, toi, peintre vénitien, m'aider à briser un tabou de l'islam, tu vas me peindre à mon image. » Et c'est l'histoire de cette amitié, mais aussi de la rencontre de deux mondes, entre le monde chrétien et le monde musulman. Et donc il y aura aussi une histoire d'amour, c'est un roman d'aventure, un roman épique, mais un roman pour moi contemporain, parce que c'est aussi une critique du fondamentalisme qui existait déjà à l'époque.
Alors en épigraphe, vous citez Arthur Rimbaud qui disait « J'aime les peintures idiotes ». Ce tableau de Mehmet II par le peintre vénitien Bellini qui est au centre de votre livre, est-ce que c'est une peinture idiote ?
Non, c'est pas une peinture idiote parce que c'est Venise qui envoie son meilleur peintre à la cour du sultan ottoman qui va révolutionner en quelque sorte l'Empire ottoman, qui vient de s'asseoir en quelque sorte. Pourquoi ? Parce que ce jeune sultan, Mehmet II, qui a pris Constantinople à l'âge de 21 ans, donc il vieillit un petit peu, c'est vrai, mais qui prend conscience quand même qu'il a un empire compliqué, voit que l'Empire ottoman s'est assis en quelque sorte sur le détroit du Bosphore, qui s'appelle toujours ainsi aujourd'hui à Istanbul, et il dit il faut réformer cet empire, surtout qu'il est menacé par les Mollah fondamentaliste et la secte des assassins. Et la secte des assassins, pour le sultan ottoman, c'était donc déjà du fondamentalisme du Daesh avant l'heure. Donc c'était une peinture intelligente parce que cela a permis le rapprochement de deux mondes, le monde chrétien et le monde musulman, ottoman en tout cas, qui se détestaient, qui se faisaient la guerre. Et puis en même temps, l'histoire d'une amitié très forte. Et puis on va voir dans ce roman, qui est une histoire vraie au départ, les trois religions du livre, je n'en dis pas plus parce qu'il y aura aussi une jeune juive que va retrouver donc le peintre Bellini.
Alors nous aurons l'occasion d'en reparler tout au long de cette émission, Olivier Weber. Dans quelques instants, nous évoquerons bien entendu la COP21, la conférence mondiale pour le climat qui vient de s'achever à Paris. On my way, I'm going, leave my home, oh. La voix de la cantatrice soprano Barbara Hendricks, qui a reçu mardi le prix de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme pour son engagement humanitaire, engagement qu'elle juge indissociable de son métier d'artiste.
Je ne pouvais pas les séparer, dire que maintenant je fais l'humanité et après je vais monter sur scène et chanter un air de Mozart. C'est une vie assez schizophrénique parce que des fois de me trouver dans un camp de réfugiés et le lendemain c'est la scène de la Scala, c'est deux mondes, mais les êtres humains sont les mêmes et je dois croire que ma place là-dedans est de laisser quelque chose de positif derrière moi.
Une semaine d'actualité.
Un attentat terroriste, c'est ainsi que Barack Obama a qualifié dimanche la tuerie de San Bernardino en Californie. Le président des États-Unis s'exprimait ainsi depuis son bureau ovale de la Maison-Blanche en précisant ce que serait le dispositif militaire américain dans la guerre contre l'État islamique en Syrie et en Irak. Anne-Marie Capomaccio à Washington.
So this was an act of terrorism.
Barack Obama a été très direct en s'adressant hier soir aux Américains. La tuerie de San Bernardino est un acte terroriste. Le président des États-Unis n'a pas promis une sécurité illusoire contre, je le cite, des loups solitaires auto-radicalisés, reconnaissant la difficulté de cette nouvelle menace qui passe par les réseaux sociaux et Internet.
Alors que nous sommes efficaces quand il s'agit d'anticiper des attaques complexes aux multiples facettes, comme celle du 11 septembre 2001, les terroristes se tournent à présent vers des actes de violence moins compliqués, tels que les tueries de masse si courantes dans notre société.
Le plan d'action de la coalition internationale est efficace, selon le président américain, qui a une nouvelle fois exclu toute intervention militaire au sol et mis en garde les Américains contre une stigmatisation des musulmans qui sont, dit-il, les premières victimes des terroristes. C'est dans le ton très solennel et sans effet d'annonce que réside la différence entre cette adresse de Barack Obama à la nation et ses précédentes interventions. Il souhaite rétablir la confiance de l'opinion publique, une confiance qui s'effrite. Les derniers Les sondages montrent que les Américains sont de moins en moins sûrs que la stratégie de leur président pour vaincre le groupe État islamique est la bonne.
Ajoutons que les parlementaires américains ont voté une loi rétablissant les visas pour les personnes ayant voyagé dans les pays dits à risque. Quant au milliardaire Donald Trump, qui fait la course en tête à l'investiture du Parti républicain, il déclare qu'il interdira purement et simplement l'entrée des musulmans aux États-Unis s'il est élu président. Des propos qui ont provoqué un tollé général à travers le monde, mais qui ont été très applaudis par ses partisans. Situation inédite au Venezuela depuis plus de 15 ans, le Parlement n'aura pas la même couleur politique que le président du pays. Nicolas Maduro a reconnu que l'opposition de droite avait remporté la majorité lors des législatives de dimanche dernier. Reportage de Véronique Guémard à Caracas.
Au quartier général de la coalition de la MUD, l'ambiance est à la fête. À peine les premiers résultats annoncés par la présidente de la Commission nationale électorale, les militants scandent « Oui, on y est arrivé ». Le secrétaire général de la MUD, Chuo Torrealba, exulte.
Le changement a commencé au Venezuela. Nous avons des raisons de fêter cela. Le pays demandait un changement et ça commence aujourd'hui.
Un changement qui devrait commencer, selon le secrétaire général de la MUD, par l'unité du pays, a-t-il martelé, la fin des divisions et la libération des prisonniers politiques avant d'attaquer la situation économique. Devant le quartier général de la MUD, des estrades ont été installées, la musique bat son plein, les gens pleurent de joie comme Maria, membre de Voluntad Popular, dont le chef Leopoldo López purge une peine de 14 ans de prison.
Oui, en fait ça, c'est beaucoup d'émotion. Après tout ce travail que nous avons fait, c'est difficile de dire ce qu'on ressent vraiment. Après toutes ces années de voir la façon dont le pays s'enfonce, le fait de savoir qu'on a la possibilité de le remettre à flot, c'est très émouvant.
Dans un concert de klaxons, des cortèges hurlants de voitures, drapeaux au vent, ont bravé l'interdiction de manifester en dévalant les rues des quartiers huppés pour fêter la victoire de la coalition de l'opposition aux élections législatives.
Sept jours dans le monde.
Joe Biden en visite en Ukraine. Le vice-président américain a demandé le respect des accords de paix signés en février dernier à Minsk pour régler le différend entre Kiev et Moscou à propos de l'est de l'Ukraine pro-russe. Joe Biden a également demandé à la Russie de rendre la Crimée annexée l'an dernier. La Crimée qui vit dans le noir depuis plus de deux semaines, faute d'électricité. Écoutez ce témoignage recueilli par notre envoyée spéciale permanente Muriel Pomponne.
Au début, j'avais du courant de 1h du matin à 8h environ, puis ça reprenait de 5h à 8h le soir. Ça a duré comme ça pendant quelques jours. Maintenant, ça va un peu mieux. Mais je connais des gens qui habitent à quelques kilomètres d'ici qui n'ont toujours pas de courant. Il n'y a pas de vie nocturne. J'ai un ami qui venait d'ouvrir un café-restaurant et ça marchait bien, mais il a dû fermer pendant plusieurs jours. Quand ça a commencé, il y a eu un rush sur les générateurs et comme ils fonctionnent au gazole, il y a eu une rupture de stock dans les stations-service. Alors les voitures font la queue pendant des heures. Je connais quelqu'un qui a un magasin de pneus. Il a un générateur qui consomme 25 litres de gazole par jour. Ça lui revient à plus de 15 euros chaque jour.
Olivier Faber, deux questions à propos de l'attentat terroriste aux États-Unis. La radicalisation express et meurtrière qui semble être le cas à San Bernardino, comment peut-on l'expliquer et comment surtout peut-on lutter contre?
Je crois d'une part que les États-Unis ont conscience à nouveau, comme après le 11 septembre 2001, que nul pays n'est à l'abri, nul pays n'est une forteresse par rapport au terrorisme. Et puis deuxièmement, alors j'entends bien, lorsque certains dirigeants américains parlent de loups solitaires radicalisés, c'est vrai, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'on est plutôt dans une structure de réseau dormant. C'est-à-dire que là, on a affaire à un couple de terroristes qui s'est radicalisé avant de se rencontrer même. Et puis il suffit simplement de se connecter avec un autre réseau. C'est le cas évidemment de ce qui a été fait avec Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Donc on est vraiment dans des structures organisées. Le deuxième paramètre qui est très grave aux États-Unis, c'est bien sûr la question de l'accès aux armes, la vente libre, etc., à laquelle essaie de s'attaquer depuis des années maintenant Obama. Il ne peut pas, il essaie de renforcer le contrôle ou en tout cas l'achat des armes à feu, et brusquement il a à chaque fois sur le dos les sénateurs et les députés, les congressmen, les représentants républicains. Et puis troisièmement, je dirais qu'il y a aussi, ça a été prononcé d'ailleurs dans le papier de votre correspondante, la question du syndrome post-traumatique de guerre dont souffrent énormément de vétérans américains. Sur les 2 millions de vétérans américains, c'est énorme, qui sont allés sur les deux théâtres d'opération que sont l'Irak et l'Afghanistan, il y a, tenez-vous bien, rien que pour les suicides, et là c'est rédhibitoire, 22 suicides par jour, c'est-à-dire 8 000 morts par an sur le sol américain, donc plus que les 14 années de guerre depuis l'opération américaine en Afghanistan. Donc tout ça va freiner évidemment les élans de répression là par les États-Unis, et les États-Unis se rendent compte évidemment qu'ils ne sont pas à l'abri.
Et les propos de Donald Trump?
Oui, bah évidemment, là on est dans une montée en puissance, une sorte de dynamique de l'intolérance. On en revient donc au thème du livre, effectivement, l'intolérance, en tout cas en l'occurrence aux États-Unis, qui inquiète depuis quelques jours les autres candidats républicains, et puis l'appareil même du Parti républicain. Donc il va y avoir évidemment une attitude nouvelle qui va être prise, mais on est dans une radicalisation politique, là, en l'occurrence de Donald Trump, qui essaye de récupérer sur toute la frange extrême, en fait, de l'électorat républicain américain.
Une semaine d'actualité.
La conférence mondiale pour le climat, la COP21, s'achève avec la présentation ce samedi seulement d'un texte dont le contenu a été très long à écrire. Il a fallu l'entrée d'une centaine de ministres lundi et un vrai marathon de travail des experts pour que les négociations avancent, et une pression de tous les instants du président de la COP21, Laurent Fabius. Je vous envoie aux journaux pour en prendre connaissance dans les détails et entendre les nombreuses réactions qu'il suscite. En tout cas, parmi les points qui n'auront pas trouvé d'accord, figure en bonne place la taxation sur les transactions financières, ce que regrette le militant altermondialiste et professeur d'économie à l'université Paris 13, Dominique Plion.
Les gouvernements européens ont manqué une occasion historique à la COP21 d'annoncer une taxe ambitieuse qui aurait permis de financer une partie des dépenses climatiques. Et malheureusement, ils n'ont pas eu courage d'aller assez loin parce que ces gouvernements, dont le gouvernement français, sont sous la coupe des lobbies financiers qui sont opposés à toute forme de taxation des transactions financières, alors que dans nos pays, le secteur de la finance est un des moins taxés par rapport à d'autres secteurs comme l'agriculture ou l'industrie. Et là, le lobby financier est tellement puissant qu'il arrive à bloquer toutes les réformes, et en particulier les taxations financières.
Dans les pays émergents, les industriels commencent, comme dans les pays développés, à s'intéresser à l'économie verte. C'est le cas en Inde, un pays pourtant pointé du doigt pour son peu d'empressement à abandonner les énergies fossiles au profit des énergies renouvelables. Agnieszka Kumor.
Les pays émergents ne s'intéressent à l'économie respectueuse du climat que depuis peu. Une prise de conscience qui coïncide avec une forte pollution des grandes villes. C'est le cas notamment en Inde. Le sous-continent a toutefois appris de son voisin chinois que le développement économique rime trop souvent avec un environnement dégradé. C'est pourquoi certains leaders industriels indiens veulent adapter la stratégie de leur entreprise aux exigences du changement climatique. C'est notamment le cas de Mahindra Group, le géant indien de la défense, de l'énergie, des équipements et de l'informatique. Anirban Ghosh, vice-président de la division développement durable du groupe.
L'Inde a appris des erreurs de la Chine. Notre groupe est présent, entre autres, dans la construction. Dès le départ, nous avons décidé de construire des bâtiments verts. Ces maisons consomment 30 à 40% moins d'énergie que les bâtiments traditionnels. Depuis 10 ans, nous construisons ainsi des villes neutres de carbone un peu partout en Inde.
Sur les 17 milliards de dollars de bénéfices annuels affichés par Mahindra, un demi-milliard correspond aux investissements verts. Ce n'est pas beaucoup, admet Anirban Ghosh, mais c'est un bon début, ajoute-t-il.
Et puisque nous parlons de la pollution en Chine, le mauvais exemple à ne pas suivre, écoutez ce reportage particulièrement édifiant de notre bureau à Pékin. En début de semaine, l'alerte rouge à la pollution a retenti et de nombreux établissements publics ou scolaires sont restés fermés. Heike Schmidt.
La sonnerie du lycée français résonne dans le vide. Il n'y a pas un élève à l'horizon. Mais Linda Célin, mère de deux enfants et employée à l'école, arrive à vélo, masque anti-pollution sur le visage.
L'école est fermée. Les parents et les enseignants ont été prévenus hier soir. On avait mis en place un système d'alerte SMS, donc on a inauguré hier. Ah, il va falloir s'organiser, oui.
L'école a tout de suite répondu présente à l'alerte maximale, contrairement aux entreprises du bâtiment priées de suspendre leurs travaux. Je ne suis pas au courant, nous lance cet ouvrier penché sur l'échafaudage. Son chef intervient.
Nous avons décidé à l'instant d'arrêter les travaux. La poussière contribue à la pollution, on n'a pas le choix. Même si cela retardera ce projet de rénovation, nous devons penser à la santé de nos ouvriers.
Et qui pense à la santé des balayeurs de rue comme Low Aying?
Notre patron nous a offert un masque, mais bon, je balaye la rue depuis 10 ans déjà, 8 heures par jour, et parfois je sens la pollution sur ma langue, dans ma gorge. J'ai l'impression de devoir tousser tout le temps.
3 jours d'alerte rouge, c'est du jamais vu dans la capitale chinoise.
Olivier Weber, on voit les efforts, notamment financiers, qui sont demandés aux pays émergents. Et là, nous parlons bien de la COP21. Alors, pour beaucoup de pays, il est sans doute plus facile d'utiliser les énergies fossiles que de développer les énergies renouvelables. Mais en les aidant, ne résout-on pas aussi, d'une certaine façon, la question des migrations ?
Oui, en tout cas, une partie de la migration, parce que, bien sûr, principalement aujourd'hui, surtout à travers la Méditerranée, on fuit quoi ? On fuit les guerres et la misère. Mais on va de plus en plus fuir aussi la sécheresse. Finalement, on va migrer pour des questions climatiques. Donc, bien sûr, fixer des populations dans des zones plus vivables, en tout cas, qui ne seraient pas submergées, ça, c'est rédhibitoire, évidemment, parce qu'on a des îles qui vont disparaître, les Maldives, Kiribati, Tuvalu, etc. Mais aussi aider des populations à rester dans des endroits qui seront mieux plantés, avec moins de réchauffement climatique, c'est les aider, bien sûr, à rester en place et à éviter des migrations. Et je crois, sinon en tout cas, et c'est tout le risque d'avoir des COP ou des réunions internationales avec des textes trop consensuels ou des textes, comme on dit dans le jargon de l'ONU, dégradés, c'est-à-dire qu'on va enlever des paramètres et des points de fixation. Eh bien, en tout cas, c'est d'avoir aussi, peut-être dans quelques années, des centaines de milliers, au minimum, des centaines de milliers de réfugiés à cause de questions climatiques.
Alors, parlons de L'Enchantement du Monde, que vous publiez chez Flammarion. Votre éditeur le présente comme un roman d'aventure, mais aussi comme une parabole sur la tolérance et puis sur le fanatisme. Pourquoi ?
Oui, parce que là, nous sommes au 15e siècle. Ce peintre Bellini se rend à la cour du sultan ottoman. Il faut imaginer, il est arrivé en bateau depuis Venise, en bas d'Istanbul, et puis il voit ce grand palais qui s'appelle Topkapi, qui existe toujours d'ailleurs, le palais du sultan, et il sent qu'il rentre dans le fief du tueur, en fait, de l'Occident, du massacreur, celui qu'on appelle le Grand Turc, et donc qui a bataillé contre la majorité des républiques et des monarchies de l'Occident, eh bien, va naître une amitié entre eux. Et de cette amitié va naître finalement une concorde, une mission de paix entre Venise et Istanbul et Mehmet II, donc le sultan ottoman, qui est donc au pouvoir à la fin du 15e siècle encore à Istanbul, va réussir à réformer son grand empire ottoman qui sinon serait fissuré et menacé surtout par l'islamisme.
Alors vous écrivez qu'il faut construire quelque chose ensemble pour donner réalité à la paix, puisque c'est la paix qui vient d'être signée entre Mehmet II et la République de Venise. Est-ce le rôle de ce tableau de créer cette paix, de matérialiser cette paix ?
Oui, parce que d'une part, Mehmet II, le sultan ottoman, va briser un tabou de l'islam, qui est de pas représenter l'homme à son image, encore moins évidemment le souverain, qui n'est pas encore le calife, qui n'est pas encore le commandeur des croyants, en tout cas le protecteur des croyants. Et puis deuxièmement, parce que finalement, Mehmet II va inventer une sorte de nouvelle philosophie. C'est un homme très érudit qui a connu plusieurs textes sacrés, dont la Bible et la Torah des Juifs. Il parlait l'hébreu, c'est assez étonnant. Il parlait le latin, il parlait le grec également. Et donc, il va faire cette mission de paix, en quelque sorte, sur la Méditerranée. Et Bellini se dit, bah oui, pourquoi pas. Et moi, j'ai voulu écrire ce livre parce que finalement, je me dis, mais quel gâchis quand on s'attaque aux pierres, quand on massacre Palmyre, j'étais il y a quelques semaines encore en Irak et au Kurdistan irakien, je vois qu'il y a plein de sites qui ont été pillés, qui ont été détruits par Daesh, et puis il n'y a pas que Daesh, il y a aussi des pilleurs de tombeaux de sites de Mésopotamie. Eh bien, on attaque la culture des hommes et des femmes, et ce sont les Irakiens, ce sont les Irakiennes, les Syriens qui disent, mais défendez aussi notre patrimoine parce que c'est le vôtre. Et c'est ce que fait Bellini déjà avant l'heure, puisque il va finalement participer à ce que j'appelle la controverse de Constantinople, à savoir, il faut surtout éviter d'interdire les images, parce que sinon c'est faire mourir les hommes et les femmes.
Olivier Weber, nous allons marquer une pause pour écouter les informations de ces dernières heures. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour revivre 7 jours d'événements avec la rédaction.
Une semaine d'actualité. Éric Bataillon.
Nous sommes en compagnie d'Olivier Weber, écrivain, journaliste, auteur de L'Enchantement du Monde, publié chez Flammarion. Avant le journal, Olivier Weber, nous évoquions notamment le sort des chrétiens d'Orient après la prise de Constantinople en 1453. Nous disions que Mehmed II suscitait la crainte de ses adversaires et chez ses alliés. Alors, dans le quatrième chapitre, le peintre Jean-Philippe Bellini parle également de la peur. Il dit que Dieu nous a légué cette propension à doter l'homme de chaînes, que c'est une formidable manière de régner sur les âmes. Ce n'est pas une critique directe de la religion, ça ?
Oui, absolument, et c'est là où Bellini est formidable, parce que par la peinture, par la Renaissance qu'il vient d'ingurgiter, qu'il vient aussi de montrer en Italie, à Venise, eh bien, il a appris la liberté à tous les niveaux, politique, religieuse, peut-être même un petit peu sentimentale, parce qu'il y a des histoires, ou une histoire en tout cas d'amour, dans ce livre, qui est aussi un roman d'aventure. Eh bien, oui, donc il se délivre de ses chaînes, et puis finalement, lui, Bellini, se s'intronise en quelque sorte ambassadeur d'une rencontre entre l'Orient et l'Occident, donc entre l'islam et le christianisme dont il est porteur. Et ce qui est intéressant, et là c'est une histoire vraie, donc c'est que Mehmed II, cet empereur ottoman qui fait peur à tout le monde dans l'Occident, qui est encore une fois la terreur des chrétiens, eh bien a failli se convertir au christianisme. Il avait été approché par une missive envoyée par le pape, en fait, et il était extrêmement intéressé par la religion de la Vierge Marie. Il portait, dit-on, toujours une petite croix sur lui, où on pense que c'est peut-être simplement l'effigie de la Vierge Marie. Et donc, il était un peu dans l'œcuménisme. Et c'était cette intelligence-là qui a fait sauver, en fait, l'Empire ottoman.
Est-ce que Bellini va à Constantinople pour soutenir les chrétiens d'Orient qui ont été quelque peu lâchés par les chrétiens de Rome en 1453?
Oui, alors, c'est vrai, parce qu'avant Istanbul, donc, la ville s'appelait Constantinople, et même avant Byzance, il y avait les Byzantins qui sont restés, d'ailleurs, pour partie, après la chute de la ville aux mains des Turcs et des Ottomans. Mais ce qui s'est passé, c'est que 2 siècles avant la chute de Constantinople, eh ben, il y a eu une croisade qui a été divertie, qui partait d'ailleurs de Venise, et qui devait aller à Jérusalem et dans les lieux saints, finalement, qui a été dérivé sur Constantinople à l'époque, et les chrétiens d'Occident, en fait, ont massacré les chrétiens d'Orient. Et donc, il y a une sorte de guerre entre deux formes du christianisme dont se souviennent encore certains chrétiens, donc orthodoxes, aujourd'hui. Donc voilà, et Bellini s'insurge contre cela. Il veut contribuer, entre guillemets, à sauver une partie de l'Occident, l'Occident d'Orient, on va dire. Donc, ces chrétiens d'Orient qui restent encore à Istanbul aujourd'hui.
Olivier Weber, nous évoquerons tout à l'heure d'autres éléments de votre livre qui résonnent avec l'actualité d'aujourd'hui. Avant cela, arrêtons-nous quelques instants en France. Avec ce raz-de-marée du Front National lors du premier tour des élections régionales, le parti d'extrême droite est en tête dans 6 régions, avec des chances de l'emporter dans au moins 3 d'entre elles. L'union entre la droite et le centre dépasse péniblement les 26% et le Parti Socialiste plafonne à 23%. La moitié des électeurs n'est pas allée voter, et notamment plus des 2/3 des jeunes. Parmi les raisons évoquées pour expliquer ce résultat, la décision de la droite républicaine de développer des thèmes de campagne proches de ceux de l'extrême droite. Un choix réaffirmé dès mardi soir en meeting par Nicolas Sarkozy. L'ancien président a estimé que voter Front National n'était ni immoral ni anti-républicain. Une affirmation diversement appréciée par les députés de tous bords. Propos recueillis par Julien Chavannes.
Nicolas Sarkozy est reparti en vrille. Il dit n'importe quoi.
Les députés de gauche sont en colère, comme l'écologiste François de Rugy. Ils appellent à voter pour des candidats de droite dans le Nord, le Grand Est et le Sud-Est pour faire barrage au Front National dimanche prochain. Et voilà que le chef du parti, les Républicains, leur complique encore plus la tâche.
Il a essayé de faire gagner le Front National. Il a essayé de faire perdre ses amis. Il a tellement peu d'estime pour Xavier Bertrand, Christian Estrosi et Philippe Richer.
À droite, où on a remis la grande explication à la pré-régional, les députés soutiennent l'opération de charme de Nicolas Sarkozy. Pour Philippe Gosselin, il a raison de tendre la main aux électeurs FN.
Toutes les stratégies qui, depuis des années et des années, cherchent à stigmatiser les électeurs du Front National en les traitant d'idiots, de gens immatures, ça marche pas.
Mais de là à dire, comme l'a fait Nicolas Sarkozy, que voter PS, c'est voter FN.
Ça, écoutez, c'est une autre histoire. On va laisser le président sur ce plan-là s'exprimer. Mais bon, on verra tout ça la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est pas... pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de se concentrer sur les projets, les listes, les candidats, en évitant de se jeter des petits noms d'oiseaux à la figure.
Les noms d'oiseaux attendront un peu. Dimanche soir, Nicolas Sarkozy sera jugé sur le score de son camp, mais aussi sur sa capacité à faire reculer le Front National.
Fin du suspense, donc, dimanche soir. Le troisième homme qui a tiré sur la foule de la salle du Bataclan le 13 novembre à Paris a été identifié. Foued Mohamed Agad, 23 ans, vivait à Vissembourg, près de Strasbourg. Il était parti en Syrie en 2013. Et c'est justement pour dissuader de nouveaux candidats au djihad en Syrie que le procureur de la République de Paris a demandé des peines de prison exemplaires à l'encontre de 7 jeunes gens issus d'une filière du Val-de-Marne, découverte en 2013. Parmi eux, mais absent lors du procès, Salim Ben Ghalem, identifié comme un bourreau présumé d'otages occidentaux de l'organisation État islamique. 18 ans de prison ont été requis contre lui pour association de malfaiteurs en vue d'actes terroristes. Simon Rosé.
Durant les 2 heures de son réquisitoire, le procureur Faugère s'est attaché à une chose, ne pas juger des faits de 2013 avec le regard de 2015, surtout un mois après les attentats. C'est en effet la question qui a sous-tendu cette semaine d'audience. Que comptaient faire les prévenus en Syrie quand ils l'ont rejoint à l'été 2013? Aider le peuple syrien, ont-ils tous répondu? Plutôt participer à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, a estimé le parquet. C'est pourquoi il a requis des peines entre 6 et 10 ans de prison, toutes assorties d'une période de sûreté. Pour le principal accusé, Salim Ben Ghalem, ce sont 18 ans de prison qui ont été requis. L'homme a été jugé en son absence. Il se trouve toujours en Syrie, où il est réputé pour être l'un des cadres de l'organisation État islamique. Il présente le même profil que les auteurs des attentats du 13 novembre à Marteau. Arnaud Faugère, en soulignant la dangerosité maximum de Ben Ghalem, il poursuit « Cet homme a clairement menacé la France, il ne faut pas de ça ici, pas de ça en France, pas de ça dans notre République. » Le jugement a été mis en délibéré.
Et la France a symboliquement marqué cette semaine sa journée de la laïcité, un acte qui a mobilisé les enseignants du secteur public, et c'est important dans le contexte social actuel, nous rappelle la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem.
La grande majorité des tensions que l'on constate entre certains de nos élèves et le principe de laïcité sont liées au dévoiement de la laïcité telle qu'il est opéré trop souvent dans le débat public. N'ont en réalité rien à voir avec la laïcité telle qu'on l'aime, nous, et qu'on veut la promouvoir. C'est-à-dire une laïcité qui est une valeur de tolérance, puisque précisément elle permet à chacun d'avoir la confession ou l'absence de confession de son choix et de pouvoir vivre tous ensemble, en l'occurrence dans l'enceinte scolaire, comme des élèves. Et c'est pourquoi l'État doit porter une parole forte pour rappeler et redire clairement ce qu'est la laïcité. Les enseignants, au sein de l'école aussi, ils sont désormais formés et accompagnés pour le faire, doivent transmettre cette laïcité-là, celle de 1905, et pas une laïcité qui serait une déclaration de guerre contre une religion, comme on le voit lorsque un maire, ici ou là, décide qu'au nom de la laïcité, il faut obliger les enfants à manger du porc ou à ne plus manger à la cantine.
Olivier Weber, la laïcité à la française, est-ce que c'est toujours compris ?
Non, ce n'est pas toujours compris. En tout cas, l'État doit le rappeler avec force parce que ça va être sinon une ligne de fracture, à savoir qu'il faut conserver ses valeurs républicaines, ce concordat de 1905, et que là, évidemment, c'est battu en brèche par des fondamentalistes qui veulent avoir des points d'appui pour justement dire qu'ils sont victimisés, qu'ils sont victimes aussi d'une laïcité trop doctrinaire. Ce n'est pas vrai. Les valeurs de la République sont là-dedans. Je crois qu'il faut être intraitable. Les musulmans de France, d'ailleurs, le demandent évidemment qu'il y ait ces respects des règles et des codes, y compris vestimentaires, républicains. Donc je crois que c'est important. Sinon, c'est laisser le champ libre à l'intolérance de quelque côté qu'il soit, religieux et aussi politique.
Alors beaucoup de pays arabes à majorité musulmane, au mot de laïcité, préfère le mot de séculier. Est-ce que cette différence sémantique est importante?
Oui, alors elle existe en tout cas en anglais. On dit souvent secular pour séculier, donc pour laïque. Mais en tout cas, non, il ne faut pas jouer sur les mots. L'heure est trop grave. On est avec Daesh à nos portes, aussi bien en France qu'aux États-Unis, ses réseaux dormants, mais aussi bien en Libye, à 800 kilomètres des côtes françaises, en Tunisie, des pays qui sont très impactés au Sahel, en Algérie ou ailleurs. On voit bien que cette pieuvre commence à essaimer un peu partout et on ne se rend pas compte. Pourquoi? Parce que les foyers sont trop nombreux. On est passé d'un foyer insurrectionnel en Afghanistan en 2001 à 3, 4, 5 autres. Et je dirais quand même que le point de basculement, c'était la guerre en Irak en 2003, qui a été créée ex nihilo par la Maison Blanche à l'époque et par George Bush. Ça fait 1 million de morts. On a totalement déstabilisé le Moyen-Orient. Et puis, on est arrivé même au principe inverse. C'est-à-dire qu'à l'époque, George Bush voulait démocratiser le Moyen-Orient et isoler l'Iran. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Donc, faut faire attention. Et je crois d'ailleurs, et j'en viens au livre L'Enchantement du Monde, je crois qu'on a affaire aussi, et surtout aujourd'hui, à une guerre de l'islam contre l'islam. C'est une guerre que doivent aussi régler les ressortissants de l'espace arabo-musulman. Et j'ai été surpris en me rendant en Irak et au Kurdistan irakien il y a quelques semaines de voir qu'en face de l'autre côté de la ligne de front, puisque j'étais avec les combattants anti-Daesh, de voir que Daesh, l'État islamique, d'abord est un proto-État ou un pré-État ou un État en devenir, peu importe, mais en tout cas que Daesh disposait d'une vraie armée conventionnelle. Et ça, c'est grave, donc il ne faut plus jouer sur les mots, c'est presque trop tard. Il faut résister.
Et ceux qui reviennent de Syrie, ces jeunes-là, qui sont donc maintenant condamnés lourdement, faut-il le faire? Faut-il vraiment les condamner lourdement?
Je crois que les pays occidentaux n'ont plus le choix. Après, la question de la déradicalisation, c'est autre chose. En tout cas, pour ceux qui ont participé ou qui ont voulu participer à des actions terroristes, évidemment, ils doivent être incarcérés et punis. Je crois surtout qu'il faut démotiver des jeunes qui veulent partir là-bas. Il se trouve que sur la ligne de front, qui correspondent d'ailleurs aux anciennes frontières de l'Empire ottoman dont je parle dans le livre, la ligne de front du côté de Daesh est tenue très souvent par des convertis occidentaux. Il y a des Allemands, il y a des Français, il y a des Belges, ils servent quelquefois de chair à canon et quelquefois non, puisqu'ils sont aussi dans les appareils de décision de Daesh. Et donc, je crois que les pays occidentaux ont perdu trop de temps. Ils n'ont pas su estimer, on va dire, la portée de Daesh dans les banlieues. Le côté, je pèse mes mots, aventurisme, fascination que représente cet espace du djihad, qui n'est pas un djihad, parce qu'on est vraiment totalement à l'opposé de ce qu'est l'islam. On est vraiment dans la barbarie et la lâcheté. Et la lâcheté que de s'attaquer, bien sûr, aux civils, aux femmes et aux enfants. Mais il y a quand même eu une sorte de fascination pour cet espace. Et je crois qu'on a perdu du temps. Il est temps de le rattraper.
Une semaine d'actualité.
On va en Afrique maintenant. Une semaine après l'élection transparente et démocratique d'un nouveau président, le Burkina Faso annonce l'inculpation d'un ancien proche de Blaise Compaoré dans l'affaire Sankara. Le général Gilbert Diendéré, ancien chef d'état-major de la présidence, est accusé d'avoir participé directement au coup d'état du 15 octobre 1987, au cours duquel le capitaine Thomas Sankara, premier président élu du pays, avait été assassiné avec 12 autres personnes. Laetitia Bezin nous rappelle les faits.
C'était l'une des grandes promesses de la transition, faire la lumière sur la mort de Thomas Sankara. Le premier ministre Isaac Zida avait annoncé peu après sa prise de fonction que la poursuite des présumés coupables serait entreprise et que justice serait rendue. Si les chefs d'inculpation à l'encontre de Gilbert Diendéré n'ont pas encore été annoncés officiellement, maître Mathieu Sommet, l'avocat du général, confirme l'inculpation de son client pour complicité dans l'assassinat de Thomas Sankara et indique préparer sa défense. La veuve du président, Mariam Sankara, n'a pas souhaité s'exprimer, mais elle rappelait en septembre dernier que Gilbert Diendéré avait été cité plusieurs fois dans ce dossier. Il semble impliqué, il était responsable des militaires qui ont été cités dans cette affaire, précisait-elle. En 1987, le général Diendéré dirigeait en effet le régiment de sécurité présidentielle. C'est lui, le 15 octobre de cette année-là, qui a supervisé l'arrestation du président. En mai dernier, le corps de Thomas Sankara a été exhumé pour tenter d'établir les circonstances de son assassinat. Les rapports d'autopsie font état de plusieurs impacts de balles sur le corps du capitaine. Mais la famille Sankara et leurs avocats attendent toujours les résultats des tests ADN effectués sur les restes retrouvés dans la supposée tombe de Thomas Sankara.
Pas de compromis entre l'Union européenne et le Burundi. À l'issue de négociations menées en début de semaine, Bruxelles considère que les positions exprimées par Bujumbura ne permettent pas de remédier au manquement des éléments essentiels de son partenariat avec la République du Burundi. Allusion aux violations des droits de l'homme et des principes démocratiques constatés dans le pays. L'analyse de notre correspondante Florence Maurice.
Le refroidissement des relations entre l'Union européenne et Bujumbura ne date pas d'hier, mais jamais, au cours de cette crise, Bruxelles n'avait été si catégorique sur le manque de bonne volonté de son partenaire. C'est donc une étape de plus dans l'isolement de Bujumbura sur la scène internationale. Une décision qui pourtant ne surprend pas grand monde. On ne peut pas dire que Bujumbura ait multiplié les signaux positifs ces derniers temps, confie un diplomate, en référence au nouveau mandat d'arrêt et gel de compte rendu public en début de semaine, visant des journalistes ou des personnalités de la société civile. Même au pied du mur, le Burundi reste donc inflexible, tout en continuant de clamer haut et fort sa bonne volonté et de minimiser l'ampleur non seulement de la crise, mais aussi du bras de fer qui l'oppose à Bruxelles. Dans un communiqué rendu public hier soir, le gouvernement burundais se félicite même que ces consultations, qui ouvrent pourtant la voie à une possible rupture de la coopération, marquent au contraire à ses yeux, je cite, une relance du dialogue avec l'Union européenne.
Et le conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide se déclare très inquiet et craint que la situation actuelle ne dégénère en guerre civile. En Centrafrique, le référendum constitutionnel est prévu pour demain, mais aura-t-il lieu dans tout le pays? Ce n'est pas sûr, après les déclarations de Nourdine Adam, chef de guerre de l'ex-coalition Séléka. Ce dernier affirme qu'il n'y aura pas de scrutin dans la région qu'il contrôle, dans le nord-est du pays. Pourtant, cette annonce n'inquiète pas outre mesure les autorités en charge des élections. Matteo Guidou.
Les déclarations de Nourdine Adam sont à prendre avec des pincettes. Nous ne voulons pas lui donner plus d'importance qu'il n'en a, confie un diplomate en poste à Bangui. La MINUSCA, de son côté, a dévoilé son dispositif visant à encadrer et à sécuriser le processus électoral. Plusieurs milliers d'hommes, des patrouilles, des moyens aériens et une présence en continu dans certaines villes clés et dites sensibles, comme à Bambari et à Kagabandoro. Pas d'inquiétude, donc, c'est le mot d'ordre dans les rangs de l'ONU et du comité stratégique des élections, qui avoue toutefois être, je cite, tout à fait conscient du potentiel de nuisance de Nourdine Adam. Beaucoup de groupes armés se sont néanmoins dissociés de l'appel du chef des FPRC, notamment Mahmat Al-Khatim, un proche de Nourdine, qui fut son conseiller en matière de sécurité. A noter également l'appel du MPC, un autre groupe armé de Kayabandoro, qui incite ses membres et la population à prendre part au processus électoral. L'impact que pourraient avoir les menaces de Nourdine Adam semble donc mesuré, d'autant que l'organisation du référendum est vue par beaucoup à Bangui comme un galop d'essai logistique, je cite, avant les élections du 27 décembre.
Ajoutons que la Cour constitutionnelle a dévoilé la liste des candidats retenus pour la prochaine élection présidentielle. Ils sont 30, une liste dans laquelle ne figure pas l'ancien président François Bozizé. Olivier Weber, la situation politique en Afrique est contrastée, c'est le moins que l'on puisse dire. Le respect des règles démocratiques, comme au Burkina Faso, c'est la voie à suivre?
Oui, c'est la voie à suivre. On voit bien que les Africains, les jeunes Africains, donc 55 ans après le processus de décolonisation, sont vraiment avides de changement, avides de démocratie. Alors pas du tout de démocratie à l'occidentale, c'est une démocratie à l'africaine, pour aussi pour pérenniser des acquis économiques. Et un besoin de changement, c'est-à-dire ce que disent ces jeunes Africains, c'est non aux souverains despotiques qui restent là 30, 40 ou 50 ans. Donc ils aspirent au changement et c'est bien. On en revient aussi au principe un peu d'aspiration démocratique qu'on a vu en Afrique du Sud, one man, one vote, un homme, un vote, et quelquefois ça marche, quelquefois ça ne marche pas. Simplement par rapport à ce bassin de l'Afrique centrale, on va dire, il y a beaucoup d'instabilité, on l'a vu en Centrafrique, mais aussi l'Afrique des Grands Lacs, bien sûr, avec la RDC, le Rwanda, le Burundi, qui subit des troubles actuellement, tout cela est très très fragile.
Jour en Afrique.
Peut-être une solution à la crise politique en Libye. Un accord serait intervenu à Tunis entre des représentants des deux parlements de Tripoli et de Tobrouk sur un processus de normalisation et donc à terme de réunification. Un accord qui reste à minima et qui s'est noué en dehors de la médiation des Nations Unies, ce qui rend les observateurs circonspects. Mais il y a urgence, chacun ayant constaté un afflux de combattants étrangers issus des rangs de l'État islamique. Camille Lafrance à Tunis.
Une occasion historique, c'est ainsi que le représentant du Parlement de Tripoli qualifie les dernières négociations entre les deux autorités libyennes après l'échec des discussions sous l'égide de l'ONU et le rejet d'un premier accord trouvé en octobre. Cette fois, les deux camps se sont entendus sur le principe, sur le processus pour former un gouvernement d'union nationale. Un comité mixte devrait être chargé de choisir un chef du gouvernement et deux vice-premiers ministres, mais l'idée doit encore être approuvée par les deux parlements libyens. Et il y a urgence, car l'État islamique compterait 2 à 3 000 combattants dans le pays, selon l'ONU. C'est dans ces camps d'entraînement que se sont notamment formés les auteurs des attentats qui ont frappé la Tunisie. Et le chaos libyen pèse sur la stabilité régionale. Si un gouvernement d'unité nationale venait à être créé, l'OTAN est prêt à l'assister. Son secrétaire général, Jens Stoltenberg, ne précise pas comment. Il devrait s'agir, dans un premier temps, de maintien de la paix, car il se dit pour l'instant hostile à une opération militaire de l'Alliance dans le pays.
Et puis le quartet du dialogue national tunisien a reçu jeudi son prix Nobel de la paix à Oslo. Auparavant, les représentants du syndicat UGTT, de la fédération patronale Utica, de l'ordre des avocats et de la Ligue des droits de l'homme avaient fait escale à Paris, où François Hollande leur a remis la Légion d'honneur. Un geste très apprécié d'Abdessattar Ben Moussa, de la Ligue tunisienne des droits de l'homme.
Cette Légion d'honneur est importante. Vous savez, dans un moment où le terrorisme frappe à Paris,
Pourquoi frappe à Paris? Parce que la France, c'est la terre de la démocratie, de la liberté et de la tolérance. Il frappe en Tunisie aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a une démocratie naissante qui va établir une tolérance, une fraternité, une égalité entre les hommes et les femmes. Donc, je crois que cette consécration vient à ce moment, c'est une consécration importante, parce que nous avons les mêmes valeurs. Le terrorisme n'a pas de frontières, le terrorisme n'a pas de couleur, il frappe partout. Donc, on doit s'unir contre le terrorisme.
Autre prix remis par Ban Ki-moon et reçu cette fois en marge de la COP21 par le directeur de l'ONG Plantons Utiles pour son engagement contre la déforestation en Afrique. Il y a 3 ans, Eric Lemettet a lancé un projet en Guinée où des femmes ont pu planter 30 000 arbres moringa, leur permettant de subvenir à leurs besoins. Eric Lemettet.
On a formé, éduqué les femmes, donc on a fait 4 groupements de femmes, de 40 femmes chacune, donc on avait 160 femmes, ces 160 femmes, on leur a donné des graines de moringa, du petit outillage agricole, et on leur a appris à planter du moringa, et on les a sensibilisées vraiment au changement climatique, à la nature, et on leur a dit que cette... Leur moyen ancestral de fumer le poisson en coupant la mangrove, ça donnait pas un meilleur goût au poisson. Il fallait quand même qu'elles réfléchissent et qu'elles transforment leurs moyens. On leur a dit, si vous faites ça, on va vous faire un programme où vous allez générer de l'argent, vous allez pouvoir vendre la poudre de moringa sur le continent. Le moringa, c'est vraiment la plante extraordinaire. C'est le meilleur antioxydant, c'est ce qui vous protège le plus du cancer.
Olivier Weber, le rôle des ONG, Guinée, Tunisie.
Oui, pour moi, ce sont les mêmes prix, ce sont les mêmes récompensés de Guinée avec Plantons Utiles au prix Nobel de la paix à ce quartet tunisien. Ce sont des hommes et des femmes qui se battent. C'est ce qu'on appelle la société civile, les ONG ou les humanitaires du Sud au sens général. Et vous avez des militants, des syndicalistes, des enseignants, des journalistes, etc. qui se battent pour un monde meilleur, qui se battent aussi contre le fanatisme. Et pour moi, c'est le terreau, c'est la terre d'avenir, c'est vraiment porteur d'espoir pour l'humanité, surtout l'humanité dans le Sud. Et je suis toujours fasciné, mais presque ému, de voir ces hommes et ces femmes qui résistent dans les pays du Sud, justement, à l'intolérance, au fanatisme, à l'islamisme aussi, au fondamentalisme religieux, quel qu'il soit. Et voilà, donc c'est important et c'est l'avenir du monde.
La Libye, à l'inverse, c'est une situation extrêmement difficile. Cette démarche de réconciliation, elle vous paraît aller dans le bon sens ?
Elle va dans le bon sens, mais en même temps elle est limitée parce qu'on a affaire à 2 parlements en Libye, le parlement de Tripoli et le parlement de Tobrouk. Tobrouk étant plutôt le parlement laïque, entre guillemets, en tout cas libéral et nationaliste. Mais des deux côtés, vous avez les milices. Ce sont les milices qui imposent leur diktat, leur conduite en fait au parlement et aux politiques. Et puis il y a une troisième composante qui prospère et on n'a pas vu le vent venir pratiquement depuis 2011, c'est Daesh. Daesh a 2 à 3 000 combattants, c'est énorme. Alors c'est peut-être pas beaucoup par rapport aux 30 000 à 50 000 en Irak et en Syrie, mais c'est 2000 à 3000 font un dégât extraordinaire, sont en train d'impacter une partie donc de l'Afrique et bien sûr font peur aux Tunisiens, aux Algériens. Donc on a un peu fermé les yeux, je pense que les pays occidentaux n'ont pas réfléchi aux conséquences et à l'effet boomerang de l'intervention de 2011. Là aussi on est dans le fanatisme, on est dans l'intolérance et il y a tellement de foyers que c'est difficile d'y remédier. Mais en tout cas, il faut absolument endiguer ce règne des milices d'une part et puis deuxièmement empêcher Daesh de prospérer. Là on a affaire, y compris sur la barrière de Sirte, c'est 100 à 150 km de zone côtière, qui est accaparée par Daesh. On a affaire à des zones aussi pétrolifère, donc c'est important, il y a un trésor de guerre, comme d'ailleurs pour Daesh en Irak et en Syrie, et il est temps d'intervenir. Ceux qui sont très inquiets aussi, ce sont les Africains de l'Ouest. On est loin de la Libye, pourtant ils disent, mais non, les prochains sur la liste, c'est nous.
Olivier Weber, revenons sur votre livre, L'Enchantement du Monde. Donc, Mehmet II décide de faire venir un peintre vénitien pour peindre son portrait. Qu'est-ce qui lui prend ? Est-ce que c'est quelque chose qui est tourné vers la paix avec l'Occident ? Ou alors est-ce que c'est un propos de politique intérieure ?
Oui, alors le sultan ottoman est un homme très intelligent, très fin, et c'est un coup de poker si je peux dire, même si on ne jouait pas encore à ce jeu à l'époque, et finalement il va miser sur la réforme de l'Empire. Il fait venir ce peintre, alors c'est quand même un tabou parce que c'est un peintre, donc en principe qui représente des personnages, quelquefois un peu dénudés d'ailleurs, ce qu'aimait bien d'ailleurs le sultan ottoman, et ça c'est vrai, mais c'est surtout pour empêcher les islamistes d'une secte en particulier, fondamentaliste donc, de prospérer. Et donc finalement il va faire tomber des têtes, il va littéralement les couper d'ailleurs, sinon lui est mort, mais surtout l'Empire ottoman est mort, et un empire d'un certain éclairage, c'est-à-dire une certaine ouverture, une certaine liberté, puisque Mehmet II, finalement, lorsqu'il a pris Constantinople aux chrétiens, s'est empressé de faire revenir les Arméniens, les Juifs, les Byzantins qui avaient fui.
Alors, ce que vous nous décrivez de cet empire ottoman du XVe siècle, c'est un peu l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui en Turquie, semble-t-il.
Oui, parce que, bon, finalement, la Turquie moderne est née sur les ruines de l'Empire ottoman dans les années 1920. Et ce que fait actuellement le président turc, Erdogan, c'est de laisser passer les militants de Daesh. Il les fait ressortir aussi. Il leur permet d'avoir des auberges. Il leur permet de se marier aussi à l'intérieur des terres turques, mais aussi de commercer librement avec le pétrole que les Turcs achètent. Donc, là aussi, l'intolérance est là. C'est très dangereux parce qu'on est à la réunion de trois empires. L'empire, ou l'ancien empire russe, l'ancien empire perse, les Iraniens qui sont à Bagdad aujourd'hui, et l'ancien empire ottoman qui a aujourd'hui encore une volonté d'expansionnisme vers le Moyen-Orient et en tout cas à ses frontières immédiates. Donc je reviens sur le livre en disant qu'il faut des souverains éclairés, il faut aussi des missions de concorde, il faut aussi des artistes qui aillent en Orient, il faut aussi que les musulmans écoutent leurs précepteurs de paix, les gens qui veulent absolument lancer des missions de concorde. C'est ça qui est important et c'est ça le message de l'enchantement du monde.
Merci Olivier Weber, écrivain et journaliste. Vous publiez donc chez Flammarion L'Enchantement du Monde, cette incroyable histoire d'un tableau de la fin du XVe siècle, portrait du sultan Mehmed II, commandé par lui-même au peintre vénitien Gentile Bellini, alors même que la représentation de l'homme à son image est interdite en terre d'islam. Une semaine d'actualité réalisée par Vanessa Rovansky. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.